Le quatrième épisode du balado Équipe parentale vous est présenté grâce à la participation spéciale de l'entreprise Minicycle. Minicycle est la ressource pour les parents à la recherche de vêtements élégants, confortables et durables pour leurs enfants. La mission de Minicycle est de fournir des vêtements de haute qualité tout en favorisant la durabilité grâce à leur concept unique à trois volets: précycle, mi-cycle et recycle. Bienvenue sur le podcast Équipe parentale, une émission où l'on place les hommes et les femmes côte à côte pour parler de l'évolution des rôles dans la famille d'aujourd'hui. Mon nom est Dominique Bernet, je suis cofondatrice de l'entreprise Les Belles Combines et auteure du livre du même nom. Aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'argent. Impossible de parler d'équité père-mère sans parler d'argent. Le partage des dépenses, la valeur du travail non rémunéré, le compte conjoint, le mariage ou le statut de conjoint de fait, les choix et le train de vie souhaité sont tous des sujets qui, on s'en sortira pas, devront être discutés au sein d'un couple. Le fait est que lorsqu'on parle d'argent, on ne parle pas que d'argent. On fait souvent référence à sa vie idéale, à ses aspirations pour le futur. En fait, le sujet de l'argent est intimement lié à une foule d'autres sujets. Le mot « valeur » est rattaché non seulement au prix, mais à l'importance qu'on accorde à une chose dans notre vie. Parler d'argent, c'est donc pas nécessairement parler uniquement de ses actifs, de ses passifs, de son épargne, de ses investissements et de son salaire. C'est parler de ce qui nous tient à cœur et de ce qu'on souhaite faire de son argent à court, moyen et à long terme. C'est vrai que parler d'argent dans le couple peut sembler lourd et délicat à la fois. Ça peut aussi faire peur, c'est souvent considéré comme tabou. Il y a un sondage mené par le magazine Money qui a été mentionné par la revue L'Actualité qui révèle que les finances sont la principale cause de conflits dans le couple. On dit que 70 % des couples mariés se disputent à propos de l'argent. Ça, c'est plus que les corvées, c'est plus que la fameuse charge mentale, c'est plus que le temps passé ensemble et même plus que le sexe. Ce qu'on se reproche le plus, c'est des dépenses frivoles. Pour en discuter, j'ai la chance d'avoir avec moi un pro des finances. Il se passe pas mal de présentations, mais je vais le présenter comme le comptable agréé qu'on entend régulièrement sur les ondes du 98.5, animateur de l'émission Lundi Mix Win à Télé-Québec et auteur des best-sellers « En as-tu vraiment besoin? » Liberté 45 et son tout nouveau livre coécrit avec Paul-Antoine Jeté, « La facture amoureuse ». Pierre-Yves McSween, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sens que cette conversation sera très intéressante et surtout très utile.
On va en discuter, ça va. C'est un sujet extrêmement volcanique, disons.
Oui, hein, c'est clair. Oui. Mais dis-moi donc, pour faire un lien là, avec ma présentation, là, est-ce que ça existe une dépense frivole? Selon toi, qu'est-ce qui cloche là, quand un conjoint reproche à l'autre une dépense frivole?
Bien, plusieurs choses, plusieurs angles. Le premier angle, c'est qu'une dépense est considérée frivole. C'est une question de perception. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans ma vision de CPA, c'est on commence par assurer les choses importantes de la famille, un peu comme dans la pyramide de Maslow, hein. Tu sais, la sécurité du couple, des enfants, la maison, l'avenir des enfants, la retraite, payer la voiture, payer le train de vie de la famille de base. Donc, frivole, c'est se payer un skateboard électrique à 2 000 $, ça peut être considéré frivole. En même temps, c'est un passe-temps. Quelqu'un d'autre pourrait dire, ben non, c'est mon moyen de transport. Donc, il y a une gradation. Mais pour moi, frivole, c'est que on met de l'avant une dépense personnelle qui est une gâterie en avant de l'obligation familiale, disons.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, si on est d'accord sur certains objectifs, une dépense frivole peut aussi être quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord parce qu'on s'est mis d'accord sur un certain point train de vie. Exact. En fait, ce que j'ai vu dans ton livre aussi qui est intéressant, c'est que c'est important d'avoir un plan de vie commun.
Okay. Oui, parce que, tu sais, exemple, si on décide d'un côté, moi, je veux 6 enfants, puis le chum, il dit, moi, ce que je veux, c'est pas avoir d'enfants puis pas de maison, c'est sûr que ça va mal aller. Et donc, ça prend des objectifs communs de base. C'est pas obligé d'aimer les mêmes choses, mais financièrement, on ne peut pas s'entendre si on ne s'entend pas sur les principes de base, effectivement.
Donc, les principes de base, ce serait quoi? Quelles questions un couple devrait se poser au départ? Là,
ben, quel mode de vie on veut? Est-ce qu'on veut avoir une maison? Est-ce qu'on veut avoir un chalet? Est-ce qu'on veut voyager? Est-ce qu'on veut être plus sédentaire? Est-ce qu'on met l'éducation des enfants en avant? Donc, le RE, c'est une priorité ou non? C'est combien qu'on veut parier pour la retraite? C'est-tu 10, 12, 14 %? Est-ce que je veux avoir un coussin de côté qui fait en sorte que je puisse changer de vie à tout temps? T'sais? Parce que des fois, on s'entend aussi sur un mode de vie. T'sais, à 22 ans, là, on est ensemble, puis là, tout va bien. Puis là, voici notre plan de vie. Mais ça se peut qu'à 30 ans, il y en a un des deux qui disent, mais sais-tu quoi? C'était ton plan de vie, finalement. C'était pas le mien. Puis moi, je savais pas trop ce que je voulais. Puis finalement, à 30 ans, ça fonctionne plus du tout. Mais ça aussi, c'est un choc, hein. C'est comme un choc de couple. C'est-à-dire, tu veux te redéfinir, mais l'autre à côté de toi, il veut pas se redéfinir. Donc, veut pas changer de vie. Donc, c'est sûr que la finance entre là-dedans.
Ouais, c'est clair. Pierre-Yves, on a avec nous Maître Annie Drapeau, qui est avocate, qui œuvre exclusivement en droit de la famille et en droit de la jeunesse. Elle est aussi médiatrice familiale et elle accompagne les individus en processus de séparation. Maître Drapeau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous envoyez passer des gens hein, dans votre bureau, j'imagine, parce que on dit que c'est environ 50 % des mariages qui se terminent en séparation, en divorce.
Oui, exactement. Puis on parle de divorce, mais c'est la même situation là pour les conjoints de fait, que les gens soient mariés ou non. Évidemment que moi, je ne fais que du droit de la famille, donc je travaille exclusivement avec des gens qui se séparent et je ne manque pas de travail, mais loin de là. Donc effectivement, j'en vois beaucoup. Ouais.
Donc, est-ce qu'on a raison de dire que une des raisons de la séparation, c'est souvent que les objectifs communs changent avec le temps?
C'est exactement ça. Monsieur McSween a dit exactement la bonne chose, c'est que souvent, moi, ce que je vois, c'est des relations. Les gens, le couple se forme dans la vingtaine, donc dans la vingtaine, on n'a pas les mêmes priorités nécessairement là que rendu à 30, 40 ans. Puis à 20 ans, on a du temps, hein? On a du temps devant nous. Puis bon, c'est pas grave. Là, les décisions qu'on prend, peut-être pas les mêmes conséquences, puis ont peut-être moins d'impact sur le futur. Puis, ce que je vois, c'est qu'au moment des séparations, c'est ça qui se passe, c'est que là, il y en a un des deux qui se réveille entre guillemets, dans la trentaine, la quarantaine, même plus tard. Mais beaucoup des jeunes couples. Je vois beaucoup de jeunes couples là, avec des jeunes enfants. Je dis jeunes couples, mais bon, dans la trentaine, qui ont des enfants en bas âge et qui là réalisent que ben non, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je voulais. Et effectivement, l'argent, la gestion de l'argent et des dépenses, c'est le problème. La première raison de conflit que je vois dans mes dossiers. C'est inévitable. Il y en a d'autres, évidemment, là, mais c'est un problème qui est réel. Que je vois tout le temps.
Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. Il y a un gars qui me disait qu'à quel point, ben, là, c'est la conjointe, mais ça aurait pu être les rôles inversés, on s'entend. La personne avec qui il vivait voulait rien savoir de parler de budget, de balancer les finances, et le couple s'est mis à réhypothéquer la maison une fois, deux fois, trois fois. Et ce qui a fait briser le couple, finalement, c'est quoi? C'est exactement ça, c'est de dire... La personne dit, on est rendu à la limite de l'hypothèque de la maison à cause du train de vie qu'on s'impose, puis tu veux pas qu'on change, mais c'est en train de me couler. Donc, avant de me couler avec toi, je vais te laisser te couler tout seul. Donc, ça vient jusque-là, c'est que ça détruit la qualité de vie des deux, éventuellement.
Ben oui, parce que c'est le futur, en fait. C'est avec notre futur avec lequel on joue, là. C'est ça qui est pas évident, là. Mais c'est ça. Donc, on a beau croire en l'amour. La survie du couple, elle n'est pas garantie, même quand on a 7 enfants. Là.
Oui, exact. Sauf que les 7 enfants, ce qu'ils aident, c'est à la priorité des choses. C'est-à-dire que quand tu as 7 enfants, tu te dis « aïe aïe, hein, faut vraiment que ça aille mal pour qu'on mette un terme à ça parce que ça va nous prendre 2 maisons à 7 enfants, une réorganisation complète de nos vies et ça va être tellement complexe que le bonheur marginal de refaire ma vie sera-t-il si grand par rapport à tous les enjeux. Donc, les multiplications du nombre d'enfants, c'est quand même un enjeu important sur se refaire une vie. Tu sais.
Oui, mais le coût de la vie là, actuellement aussi est devenu un gros enjeu, surtout avec le coût des propriétés actuellement. Là. Partir puis aller s'acheter chacun une maison, c'est quelque chose là, aujourd'hui là, aussi. Mais c'est vrai, effectivement, nous, on s'est mis un petit peu dans le trouble. En ce sens que c'est ça, c'est le jeu en vaut pas, faut que le jeu en vaille la chandelle. C'est
pas... Le trouble fait ça comme ça. C'est que, à un moment donné, les enfants sont pas en âge d'être autonomes. Puis, plus ils gagnent l'autonomie, puis à un moment donné, ils quittent le nid. Donc, il y a un moment où ça devient plus logique, c'est niaiseux, hein, mais en séparation, il y a à un an, deux ans, c'est l'enfer, là, les deux parents sont débordés. Mais à 14 ans, là, c'est le choc sur l'émotion des enfants. Mais au niveau de l'organisation parentale, c'est beaucoup moins compliqué. Donc, c'est pas simple.
Puis c'est vrai ça, parce que je le vois beaucoup, hein, des gens, là, des fois, parce que malheureusement, dans la majorité des parents, là, des séparations que je fais, pour la majorité du temps, ce qu'on me dit, c'est, ben, tu sais, ça fait longtemps que ça va pas, ça fait longtemps qu'on chicane, ça fait longtemps, mais on voulait attendre que les enfants soient plus vieux, on voulait attendre. Donc, oui, il y a un impact là-dessus, là. On réfléchit comme il faut avant de poser un geste. Puis la question de dire, est-ce que je peux financièrement me séparer, ça a l'air absurde de se poser la question, mais c'est rare les situations où, bon, là, on a une maison, là, on se sépare. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vois souvent, ben, on n'a pas le choix de vendre la maison. Puis là, il faut la vendre rapidement parce qu'on est obligé d'aller chercher cet argent-là pour être capable de se reloger. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Ben, on va à la perte. Ou souvent, bon, puis là, on se chicane aussi sur la répartition de l'argent. Mais comme M. Merswin l'a dit, là, souvent, ça va être un pensez-y-bien là, avant de dire, oui, mais comment je vais faire là, pour vivre, pour élever mes enfants? Comment je vais faire pour me reloger en ayant un salaire et non deux?
Une pénalité hypothécaire, c'est niaiseux, je te donne un exemple. Il te reste 2 ans, ton terme hypothécaire, 3 ans, tu te dis, ah, les gens qui réfléchissent la finance, ils vont se séparer le jour. Tu sais, la vente de la maison va coordonner avec le renouvellement hypothécaire. Et un petit signal financier, c'est drôle, c'est que des gens qui comprennent un peu comment ça fonctionne. Tu sais, quand ton couple dit, hey, on renouvelle-tu fixe ou pré-ouvert ou pré-fermé? Puis quand la personne dit, on va payer 1% de plus pour qu'il soit ouvert, c'est niaiseux, mais ce signal, c'est pour dire on veut avoir le droit de vendre la maison, donc on a cette option-là dans le cerveau. Ça va jusque-là.
C'est incroyable, hein? Mais la grande question, c'est est-ce qu'on le prévoit, ce divorce-là, quand on est en amour?
Non.
Parce que c'est un peu, tu sais, dans le fond, planifié. Dans le fond, c'est pas qu'on veut prévoir le divorce, mais on veut s'assurer d'avoir des conditions dans nos vies qui font qu'on personne sera dans le trouble si ça arrive, ou en tout cas le moins possible. Dans ton livre, Pierre-Yves, il y a deux choses, là, outre la définition de l'avenir commun, là, qui ont retenu mon attention. Le mode de séparation des dépenses.
Ouais.
Et la façon dont on va séparer les dépenses dans le couple, mais aussi le choix du régime matrimonial qu'on va choisir.
Ou le non-choix de régime aussi.
Ouais, aussi. Pour ce qui est des ententes de partage de dépenses, là, moi, je trouve ça super intéressant parce que comme couple, on choisit un mode de dépense. Puis là, on parle avec d'autres couples. Puis là, on se demande, on a-tu choisi la bonne façon? Puis on aime bien ça savoir comment ça se passe ailleurs. Mais c'est ça, il y a différentes façons de le faire. Il y a différents scénarios. Ouais. D'ailleurs, t'en discutes. C'est quoi les scénarios envisageables?
Il y en a plusieurs. Mais un, il y a une question aussi de où est votre couple sur l'échelle de... On est deux entités distinctes de 22 ans qui ont chacun leur paye puis sont coloc, mais qui ont une relation sexuelle, et des parents qui ont des enfants avec un avenir commun. Puis ça définit, selon moi, le niveau d'intégration. Donc, je donne un exemple. Tu peux mettre tout dans un seul pot puis on sépare à 50-50. Ça, c'est une façon de faire. Tu peux y aller au prorata des revenus. Tu peux y aller en fonction des capacités de paiement. Tu peux y aller en fonction qu'il y en a un qui a un enfant, l'autre il n'y en a pas, donc il y a une compensation que l'autre doit payer à son ex, donc ça rebalance. Donc, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est qu'il n'y a pas de méthode parfaite. Et il y a tout le temps un changement entre la compréhension du système fiscal puis le temps accordé. Je te donne un exemple. Il y en a qui disent « Ah, je gagne 70 % du salaire total, l'autre gagne 30 % on fait 70-30. » Alors que le salaire net disponible, c'est pas ça. En même temps, d'un autre côté, la personne qui gagne 30 000, peut-être qu'elle travaille à temps plein, et l'autre à 70 000 travaille à temps partiel. Et donc, l'effort par dollar, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce que je dis au couple, c'est que faut comprendre l'ensemble des enjeux, mais il n'y a pas de méthode que tu peux appliquer puis dire à ton chum ou ta blonde, ça, c'est la bonne façon. Ou c'est comme ça que ça va se passer. Mais l'erreur, c'est souvent de prendre le salaire brut. Ça, je trouve, là, de dire... Tu gagnes 150 000, je gagne 100 000, donc tu payes 150 000 sur 250. Bien, ça ne tient pas compte de l'ensemble des enjeux.
Oui, puis en fait, ce que tu nous dis, c'est que, puis pour l'avoir vécu aussi, là, on va changer souvent notre système en fonction de où on en est dans notre vie de couple. Tu sais, si on vient de se rencontrer, c'est normal qu'on split un peu 50-50 puis qu'on arrive vers une méthode de partage des dépenses qui va être différente.
Mais je vais donner un exemple, là. Vous avez 6-7 enfants, là, on s'entend rendu là, on est all-in pour la vie, là. Mais quand tu as des enfants, puis il y en a un qui gagne moins, mais qui dit, je vais m'occuper plus de la maison, bien là, les allocations canadiennes, les allocations québécoises, ils appartiennent à qui? Mm-hmm. Dans le pot de qui embarque? Parce que dans le fond, c'est parce que je travaille plus que toi, tu peux travailler moins, mais l'argent qui rentre, est-ce que c'est un pot commun ou c'est en plus de la séparation des dépenses? Mais rendu là, moi, pour vrai, quand tu as des enfants, moi, la seule règle que je dis, c'est peu importe le partage des dépenses, c'est qu'on s'entend sur des intérêts communs, puis il faut que les deux s'enrichissent. C'est, tu peux pas, après ça, commencer à mettre un montant sur une heure de bénévolat, une heure de pliage de linge, une heure de travail au bureau. C'est une co-entreprise. T'sais. Donc, il faut quand même que tu fusionnes un peu plus quand tu as des enfants, je pense.
Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est ce qui est arrivé, en tout cas, dans notre cas. Là. Mais justement...
Mais c'est pas une entreprise, c'est une multinationale étrangère. Il y a trop d'enjeux. T'sais.
Ah oui, moi, je commence vraiment à être en train de gérer une PME. Là. C'est... Puis tu sais, je sais, je suis en entreprise aussi, puis je les vois, les similitudes. Là. C'est incroyable. Là. C'est vraiment une petite PME, une famille, en quelque sorte, aussi. Là. Mais
c'est ça. Mais t'as pas vous, la séparation des dépenses dans votre bureau, ça se passe comment?
Ouais, dans mon les parents désespérés qui viennent me voir.
Ouais, non, mais dans le sens qu'ils ont une médiation, mais dans leur vie, souvent ils arrivent puis on dit, hey, pendant notre relation amoureuse, j'ai payé toutes les dépenses, j'ai tout payé, puis là ils veulent une compensation rétroactive.
Et voilà, mm-hmm. Exactement ça. C'est tout le temps ça. C'est que la majorité du temps, il y en a un qui a beaucoup plus de revenus que l'autre. Ouais. Donc ce que je vois souvent, c'est bon, on a une maison, on a un papa, une maman, bon. Maman, papa, ensemble, ils ont acheté une maison, sont copropriétaires. Dans l'acte notarié, il n'y a rien qui a été prévu. Donc, par
c'est
les
50-50.
C'est 50-50. Et là, ce que je vois régulièrement, c'est que, bon, par exemple, monsieur ou l'inverse, je ne veux pas faire de distinction avec les genres, là, c'est mm-hmm. dans un sens comme dans l'autre, mais supposons que monsieur gagne 150 000, madame en gagne 50. Bien, évidemment que monsieur va probablement payer un montant plus élevé sur l'hypothèque, sur les taxes. Ça, je le vois régulièrement. Le problème qu'on a, c'est qu'au moment de la séparation, étant donné qu'ils sont copropriétaires à 50 %, mais quand ils vont passer chez le notaire, ils vont avoir le droit chacun à la moitié de l'équité sur la maison. Mmh. Et là, ça cause un problème. Et ça, c'est en parlant des conjoints faits. Le pire scénario ou le meilleur scénario, là, tout dépendant de la situation, en matière de divorce. On a deux personnes qui sont mariées. Donc là, on a les règles du patrimoine familial qui s'appliquent. C'est-à-dire qu'il y a réellement un patrimoine financier commun qui se crée avec le mariage. Et ce que j'ai vu des fois, c'est par exemple, monsieur achète une maison pendant le mariage, il la met à son nom uniquement et il paye tous les frais afférents à la résidence pendant toute la vie commune. Mm-hmm. La maison est un bien qui fait partie du patrimoine familial, donc... La madame, elle va avoir le droit d'avoir la moitié de la valeur partagée.
Parce qu'elle a été acquise pendant le mariage.
Mm-hmm.
Et sinon, c'est la phrase qu'elle a le droit quand même à la moitié de la plus-value de la maison depuis le mariage. Donc, exactement. Si le monsieur a acheté la maison avant le mariage, mais une fois que la dame ou l'autre personne entre dans la vie, la plus-value entre. Fait que là, il faut savoir la valeur de la maison au moment du mariage.
Exactement.
C'est beaucoup d'enjeux. Même chose avec les REER, c'est niaiseux. Je te donne un exemple. Tu commences à sortir avec une personne quand tu as déjà un passé économique. Tu n'as pas 20 ans, tu as 40 ans. Là, tu as 300 000 de REER. Tu décides de te marier avec la personne. Mais c'est niaiseux, mais il faut que tu prennes ce montant de REER-là et tu le mettes dans un autre compte pour dire à la personne, garde, ce qu'on cumule à partir de maintenant, c'est notre patrimoine, mais avant ça, c'est ta bibi. Et ça, c'est complexe. Moi, ce que je trouve, c'est que plus les gens se matchent tard, plus il y a des enjeux passés, plus il y a des enfants, plus ça devient... une folie de théorique au niveau de l'équité.
Mais les gens se matchent de plus en plus tard, en plus.
Fait
c'est vraiment aussi. La réalité aussi, se rematch. Fait que là, match-rematch, il faut quand même que tu surveilles un peu tes finances, c'est clair, là, c'est certain.
C'est pas que ça, c'est que, comme Maître Drapeau, dans votre bureau, je suis sûr que vous voyez ça, c'est qu'il y a des enjeux qui sont fiscaux, légaux et amoureux.
Exactement.
Tout est mélangé. Fait que là... On s'entend pas sur la base de discussion, fait qu'on peut pas s'entendre sur le partage.
Puis c'est intéressant parce que ce que vous dites là, les gens devraient toujours faire ça, c'est-à-dire là, les gens qui se marient plus tard de dire bon ben regarde, voici où j'en suis dans ma situation financière par rapport au REER, parce qu'après ça, nous on a la preuve à faire devant la cour. Moi, si un client me dit j'avais pour 200 000 de REER quand je me suis mariée, ben là, il faut que, tu sais là, le REER il est rendu où là? Depuis quand? Puis il y a des intérêts qui sont générés avec ça. Si tout le monde prenait leur actif financier, le mettait à part au moment du mariage, ça serait tellement plus simple par la suite. Mais en même temps, c'est un pour les gens, pour moi, c'est un contrat, le mariage, mais pour la majorité des gens, c'est un engagement d'amour. Fait que les gens pensent pas à ça. C'est ça qui est difficile. Moi, quand les gens, ils viennent me voir puis ils me disent, oui, mais je me suis fait avoir puis je l'aimais puis c'est lui qui contrôlait les finances. Parce que ça, je vois ça très régulièrement encore. Dans des couples qui se séparent, puis des gens qui me disent, ben, moi, je savais même pas qu'il y avait ça. Il m'a fait signer un papier, il a réhypothéqué la maison puis la marge de crédit. Là, on se rend compte que finalement, il y en a un des deux qui a utilisé la marge de crédit pour ses dépenses personnelles. Mais là, étant donné que les gens sont mariés, ben, on a une dette qui est commune. Et c'est incroyable, là. C'est des histoires d'horreur. Puis il y a beaucoup d'injustices qui sont vécues par les gens. Mais, tu sais, je dis toujours, la loi, comme vous dites, là, il y a la fiscalité, il y a la loi, puis il y a la question des sentiments d'équité, mais malheureusement, c'est des chiffres. On
fait
des calculs.
Ah, puis on va se le dire, c'est, tu sais, après avoir lu le livre, là, justement, de la facture amoureuse, c'est complexe, là. Pour monsieur, puis madame, tout le monde, comment on peut arriver à connaître toutes les dédales? Tu sais, je donne l'exemple, là, ce qui m'a frappé, là, c'est le timing de l'héritage, là. Quand tu parles du fait que si, par exemple, mon beau-père donne l'héritage à mon chum, mais on le met dans l'achat de la maison ou il contribue à des régimes épargne-étude, ben là, ça devient du patrimoine familial, de ce que j'en ai compris.
Non, donc, l'héritage est exclu du patrimoine familial, Soli. C'est exclu. Fait que si ton chum reçoit 200 000 de son père net d'impôt, puis paye la maison avec, quand vous allez venir pour séparer le patrimoine familial, il peut dire, ça, c'était mon héritage. S'il est capable de le démontrer, c'est enlevé. Là où ça crée un enjeu, c'est quand tu as un couple qui se rematche avec des enfants, puis là, il y a des ex-beaux-parents puis des beaux-parents, puis que là, il y a de l'argent qui va aller juste à l'enfant qui vient de son sang. Et ça crée des problèmes. Tu as une grand-mère qui est millionnaire, elle décède, elle veut léguer à sa petite fille 500 000 $ mais elle a un demi-frère, parce que sa mère, elle s'est rematchée avec un gars, puis elle a fait un autre enfant. Mais elle, le demi-frère, c'est bien d'une famille moins nantie. Alors, tu as une disparité économique entre frères et sœurs prévu dans un système d'héritage et le patrimoine familial ne corrige pas ça, il protège ça. Est-ce que Maître Drapeau, vous me corrigez?
Oui, bien en fait, c'est intéressant la question de l'héritage parce qu'on le voit souvent. Puis le problème qu'on a, c'est parce que c'est bien beau en théorie là, de dire ma mère m'a donné à moi 200 000 $ pour mettre sur la maison. Donc là, il y a une déduction à faire. C'est-à-dire qu'on va faire une déduction, il y a un calcul parce que ce 200 000 $-là mis sur la maison a contribué à la plus-value aussi.
À quel niveau?
À la de la maison. Oui. Voilà. Fait qu'on a un calcul quand même assez complexe pour le faire. C'est difficile de l'expliquer aux gens. Et puis la question, la problématique qu'on a comme avocat, c'est de le démontrer. Comment moi je peux faire la preuve? Puis ça, là, dans tous mes dossiers quasiment. Oui, mais ils nous ont avancé le cash down pour la maison. Ils nous ont donné 10 000 $, c'était pour faire le patio. Oui, mais est-ce que ça a été donné? Ça a été donné pour la maison, à vous deux, ça a été donné à toi. Puis là, ben ça, là, c'est tellement d'heures de travail de préparer un procès pour faire cette preuve-là, sortir les relevés de banque, les factures.
Donc, ça coûte cher.
Ça coûte cher, ça coûte une fortune en avocat.
Un avocat qui m'a dit, il n'y a aucun procès, aucun, qui va battre une entente à l'amiable mauvaise. C'est-à-dire que... Exactement. Une mauvaise entente à l'amiable est mieux qu'un bon procès. Mm-hmm. C'est quand même spécial de dire, dans le fond, ça coûte tellement cher d'embourber la loi puis le système que, dans le fond, ta première pensée des deux côtés, même s'il y en a un des deux qui n'est pas rationnel, ça devrait être « on va s'entendre
oh. ». On va tenter. Puis les juges le disent, puis c'est pour ça aussi que je suis également médiatrice. Puis moi, je dis toujours à mes clients, écoutez, je vais y aller à procès, là, il n'y en a pas de problème. C'est là, mon fun, il est là. J'aime ça, moi, faire des procès. Je suis bien là-dedans. Sauf que ça rend service à personne parce que c'est très protocolaire aussi, un procès. On fonctionne par interrogatoire, contre-interrogatoire, plaidoirie. On ne peut pas dire ce qu'on veut au juge. Le juge, lui, il peut pas connaître l'histoire aussi bien que si les deux personnes s'assoient ensemble et en discutent. Puis, nécessairement, le juge va trancher. Fait qu'il y en a un des deux qui sera pas content. Fait que le conflit va perdurer après. Fait que même si on a réglé le problème, là, on a un beau jugement, mais ces gens-là, s'ils ont des enfants, ils vont devoir être coparents, qu'on dit, faire vie avec ces enfants-là. Le problème, il n'est pas réglé.
Puis en droit familial, tu sais, la discrétion de la cour est incroyable.
Mais là, oui, parce que c'est l'intérêt de l'enfant.
Hanter un entrepreneur là-dedans ou une entrepreneur avec un Inc. puis une business, puis là, c'est quoi la portion de l'argent qui sert à rouler la compagnie? Quelle est la portion que la personne laisse dans la compagnie pour pas se verser de salaire? Et là, dans le livre, on le démontre, on est allé voir des procès, puis on a lu de la jurisprudence, plutôt des jugements, puis la réalité, c'est que chaque juge, il y a autant de juges que de jugements que d'interprétations. Alors, tu peux même pas, comme avocat, à dire à ton client, c'est ça qui va arriver. Il va prendre 20% des BNR ou 10% des BNR. Non, tu peux pas savoir.
C'est impossible. Ça, je dirais, c'est la première chose que je disais à mes clients. Je peux pas vous donner de garantie. Je peux vous donner la garantie que je vais faire tout ce que je peux. Mais effectivement, parce que le juge, il y a des concepts de loi, il y a la jurisprudence, c'est-à-dire des jugements qui ont déjà été rendus, qui vont établir une ligne, une direction, une ligne de conduite. Mais le juge a un pouvoir discrétionnaire. Fait qu'exactement, les bénéfices non répartis, ça, c'est une information que les gens n'ont pas. Les gens qui ont des entreprises, là, on déduit des dépenses aux fins de l'impôt, mais une dépense peut avoir été déduite, puis c'est correct là, d'un point de vue fiscal. Mais là, quand on est en matière de fixation de pension alimentaire, c'est plus la même définition de revenu. Là. On n'est pas sous la loi sur l'impôt et le revenu. On travaille avec le règlement de fixation de pension alimentaire. Fait que ça se peut que les dépenses que tu as déduites dans tes états financiers, d'un point de vue fiscal, c'est correct. Peut-être que moi, en droit familial, je vais être capable de prendre des dépenses et de les imputer sur tes revenus. Je vais augmenter tes revenus aux fins de fixation de pension alimentaire. Fait que les gens qui se disent « je vais me verser un petit salaire, je vais tout déduire, je vais embarquer tout ce que je peux dans mes dépenses, puis se garder beaucoup de bénéfices non répartis dans l'entreprise », non, ça passera pas, là.
Je vais faire un autre équivalent. Un équivalent dans le même sens, c'est Mme Bernèche, mettons que vous dites « OK, moi, je suis un entrepreneur en quelque sorte, tu sais, puis je fais ça, puis... » Mais là, quand on se sépare, il faut établir la valeur de l'entreprise à un moment X. Cette valeur-là, elle peut être surévaluée ou sous-évaluée. Et surtout, le fait de devoir donner une partie de ta compagnie-là à l'autre, ça ampute la capacité de l'entreprise à opérer. Donc, celui ou celle qui paye l'autre se retrouve avec moins de liquidité, avec une entreprise peut-être qui va mieux aller ou moins bien aller, mais la promesse que le couple va grandir ensemble avec la valeur d'entreprise et déterminer un moment X. Et donc, je vous donne un exemple imaginaire. Prenez Tesla. Mais Tesla, en 2014, c'est sur le bord de la faillite. Mais Tesla, c'est, mettons, Elon Musk qui s'était séparé d'une madame en 2014 avec ses actions, puis qu'il l'avait racheté pour 3 millions. Peut-être qu'en 2014, à 3 millions, c'était tout un deal. J'en ai un exemple, 2014, je ne sais plus l'année exacte. C'est un documentaire. Mettons, mais avant ça, mais comprenons la patente. C'est que puis aujourd'hui, c'est l'entreprise qui vaut le plus cher. Donc, la personne aurait peut-être fait un bon deal à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, non. T'sais, vous comprenez, là? Là, quand 2014, c'était plus un documentaire en 2014 produit qui montrait la situation de Tesla, mais c'est pour dire comment c'est plate, mais il n'y aura jamais de justice dans la famille. Jamais.
Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut se poser la question, un mariage, une entente entre conjoints, est-ce qu'on en a vraiment besoin, Pierre-Yves?
On a besoin, je pense, au-delà de tout ça, puis c'est facile à dire quand ça va bien, puis c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, pour l'avoir vécu, je veux dire, c'est quand ça va bien que c'est plus facile de s'entendre. Ça, c'est déjà important. Les gens ne veulent pas en parler, mais c'est le moment où c'est le plus facile d'en parler, parce que c'est le moment où tu es le plus froid, puis tu es le plus honnête avec l'autre personne. Donc, quand tu t'entends bien, tu dis, bon, c'est quoi nos principes directeurs? Puis chaque année, je pense qu'il faut une répartition des actifs légalement. C'est-à-dire que légalement, il faut que les principes que vous ayez dit, il faut que les babines suivent les bottines ou vice-versa. Faut que tu dises, si on dit que c'est 50-50, aujourd'hui, t'as-tu droit à 50% de la valeur? Ah non, légalement, on s'arrangera. Non, on s'arrangera, ça va pas du tout. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, une maison, moi, ça me jette à terre, des conjoints de fait, où il y a une dame ou un monsieur qui est dans la maison de l'autre depuis 20 ans, qui a pas de droit sur la maison légalement, ben là, je trouve que c'est intense. À moins que ce soit ce que tu voulais pour pouvoir partir quand tu voulais, mais tu sais, il y en a un qui a un actif, l'autre vit dedans, paye des dépenses, puis jamais tu dis je vais donner 15, 20, 30, 50 % de la valeur de la maison. Il faut que, à un moment donné, la transaction se fasse légalement.
Oui, Maître Drapeau, c'est quoi la différence entre les gens qui ont des contrats qui les unissent, des ententes entre conjoints ou contrats de mariage? Est-ce que ça simplifie vraiment les choses?
Bien, en fait, si on prend par exemple le cas du mariage, il y a le patrimoine familial qui existe par le Code civil. Ça, on n'a pas le choix. Ça existe de toute façon. Là où on a un choix, puis on parlait tantôt, là, vous parlez des entreprises, là, de la valeur des entreprises, bien, les revenus d'une entreprise, cet argent-là fait partie de ce qu'on appelle le régime matrimonial. Donc, on a le patrimoine familial en premier, la maison, l'auto, les REER, fonds de pension. Ce qui ne rentre pas là-dedans, on tombe une coche en dessous, c'est le régime matrimonial. Et c'est là où, si on n'a pas de contrat, on est sous le régime légal, qui est la société d'acquis. Et là, le gros problème qu'on a, la majorité des gens n'ont pas de contrat de mariage. On applique la société d'acquis. Et là, les entreprises, les revenus d'entreprise en font partie. Si les gens veulent se protéger de ça, de dire, regarde, moi, je veux me marier, il y aura le patrimoine familial, mais mon compte de banque, mes revenus à moi, ma business, ça, je vais le garder. À ce moment-là, oui, c'est pertinent aller chez le notaire puis aller faire un contrat. C'est un contrat, en fait, c'est qu'on choisit son régime matrimonial et là, on va choisir la séparation de biens. C'est-à-dire que chacun va garder les biens qu'il possédait au moment du mariage. Fait que déjà là, on se protège. En même temps, c'est celui qui a beaucoup de revenus va se protéger pour les garder, mais d'un autre côté, la société d'acquis, elle a été constituée pour protéger les gens qui n'avaient pas beaucoup d'actifs. C'est justement, c'est dans le temps où on avait une maman à la maison, par exemple, qui passait sa vie. Bon. Donc, mais évidemment, là, moi, comme avocate, je vais dire, si vous vous mariez, allez faire un contrat de mariage pour au moins choisir les biens qui font partie du régime matrimonial, de décider, oui, on va les partager ou non, au moins de faire ce choix-là.
Un bon exemple, vous imaginez là, une haute fonctionnaire qui gagne 200 000 par année ou une VP d'une banque, peu importe, et qui a un régime de retraite, puis qui est mariée avec un entrepreneur en séparation de biens. Alors là, l'entrepreneur dit, moi, j'ai ma business avant de te rencontrer, fait que moi, c'est mes biens propres, la compagnie. Parfait. Mais le REER, la madame, son régime de retraite, ça rentre dans le patrimoine familial. Exact. Et donc, la dame, elle signe ça en disant, ben oui, c'est correct, là. Tu gardes ta compagnie, c'est à toi, puis moi, je travaille, c'est mon revenu. Quand on se séparera, j'aurai encore mon revenu. Et ton régime de retraite, il est à toi. Puis lui, là, il a tout laissé dans la compagnie. Au mieux, il prenait son CELI parce qu'il est en séparation de biens, ça rentre pas dans le patrimoine familial, puis ça rentre pas dans la société d'acquis quand tu es en séparation de biens, il n'y a pas de société d'acquis. Et donc, tu sais pas ça au début, là. Tu sais, faut quasiment que tu consultes un avocat, un fiscaliste, puis tu sais. Mm-hmm. Alors, effectivement, trouver une situation parfaite, là, c'est dur. Puis, Mme Drapeau, parlez-moi de mesures. Moi, c'est ça qui me fascine. On n'a pas à avoir un contrat, on s'entend sur les principes.
Ouais.
On s'entend sur qu'est-ce qui rentre dans le patrimoine, pas dans le patrimoine, mais dans le mariage ou pas. Puis, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi. Mais quand on dit, on va se séparer ça, mais la valeur, tu sais, la maison, par exemple, ça vaut le prix de l'agent d'immeuble, le prix qu'on fait évaluer à l'externe, le prix qu'on aura une offre au-dedans de 2 semaines. Donc, le principal pour moi enjeu de chicane, c'est la mesure. Est-ce qu'elle est fiscale nette? Est-ce qu'elle est fiscale? Est-ce qu'elle est défiscalisée? Est-ce que la personne dit, ah, c'est un processus indépendant? Donc, il y en a qui disent, en cas de séparation, je te rachète la maison à la valeur marchande, mais ils ne s'entendent pas pour définir quelle est la valeur marchande.
Voilà. Mais c'est un problème qu'on a. On a cette réalité-là dans toutes les séparations. Les deux sont d'accord, parfait. Je rachète ta part, ou on met une pancarte, on la vend, combien qu'on la vend. Fait que l'étape numéro 1, on essaie de s'entendre en cours. On va regarder la valeur, on va regarder la valeur au rôle à titre très, très indicatif. Très, très, très indicatif. Là. C'est comme on essaie de se faire une idée. Sinon, ce qu'on fait, c'est toujours dans un esprit de règlement en cours, là, on discute, on essaie toujours de négocier. On se dit, bon, ben, regarde. Moi, je connais un agent des meubles. Tu peux-tu aller faire une visite puis me dire rapidement à combien tu penses que cette maison-là pourrait être vendue? Fait que là, il y a une partie qui va proposer son prix. Il va dire, ben, regarde, moi, si on la vend à 300 000, je suis content. Et l'autre va dire, non, c'est sûr que ça vaut plus que ça. Moi, en bas de 350 000. Bon, là, on se chicane. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire vraiment une évaluation formelle par un agent des meubles parce que lui va faire les vérifications, les comparables vendus, etc. Mais si je vais en cours devant le juge, je vais aller me chercher un évaluateur agréé. Et là, ça, on le voit souvent, quand on chicane, on n'est pas capable de s'entendre sur un prix, parce que souvent, on le détermine, là, on s'entend. On dit, bon, ben, on pense que ça vaut tant, merci, bonsoir, on part avec ça. Et quand on n'est pas capable de s'entendre, on fait venir un évaluateur, puis ça, les évaluateurs sont débordés, il y en a, il y a de la chicane là-dessus. C'est incroyable.
Et encore une fois, on peut jaser de la valeur d'une évaluation d'un évaluateur sans critiquer le travail. C'est qu'un évaluateur, c'est un ballpark. Il regarde dans le secteur. Puis là, il dit, bon, règle du pouce, il y a un duplex qui est en même grandeur à peu près qui s'est vendu tant. Ouais, mais nous, on a mis 300 000 de réno dedans, eux autres. C'est encore sur le plat original, la plomberie n'est pas refaite, les fondations tombent. Ah ouais, OK. Ah, mais là, j'ai un nom comparable dans le marché ici. Ouais, mais là, tu es sur le plateau Mont-Royal. Nous, on vit dans Rosemont. Là. C'est 200 000 décors en partant de plus sur le plateau. Et donc, tu vas t'obstiner sur même l'évaluateur externe, tu peux te chicaner.
Ah ben oui, parce que là, souvent, quand on a un évaluateur, on s'entend de façon commune. Les deux avocats, bon, t'es-tu d'accord avec lui? Oui, parfait, pas de problème. Mais là, une fois qu'on a le rapport, ça se peut justement qu'il y en a un des deux qui disent, ben non, ça n'a pas de bon sens, il n'a pas tenu compte de tel élément, de tel élément. Et là, ben, il faut faire une autre évaluation.
La personne va dire, ah, c'est ton évaluateur, donc c'est toi qui as choisi. J'ai l'autre affaire. Les professionnels, on prend les contacts de qui? Tu prends-tu mon avocat, ton avocat, le notaire que tu connais? Ça finit plus.
Il n'y a pas de fin, c'est vrai.
Il n'y a pas de fin. Si, en fait, la seule chose que je peux dire, je ne sais pas, Mme Drapeau, vous êtes d'accord avec moi, là, mais au-delà des sentiments, des frustrations, puis tout le monde est en maudit, puis tout le monde est bien émotif, là, c'est qu'à un moment donné, il faut le retour de la bonne foi, puis de la volonté de s'entendre, puis c'est la seule façon d'y arriver. Mais quand tu as quelqu'un de boqué l'autre bord, tu n'as pas grand-chose à faire. T'sais, un des deux est boqué, là, d'un bord ou de l'autre, il y a de l'émotion pour des raisons différentes. L'émotion est le pire conseiller ou la pire conseillère. Tu sais. Je dis la conseillère dans le sens que c'est une frustration au lieu d'une émotion. Mais...
Ce que je vois, là, mais oui, c'est la meilleure chose. Il faut, à un moment donné, il faut lâcher prise. Puis il faut pas. Moi, je suis tout le temps, il faut choisir ses combats, il faut choisir ses batailles. À un moment donné, on ferme le livre puis on passe à autre chose. Le problème, quand on dit ben c'est difficile quand il y en a un qui est boqué, souvent, c'est qu'il y en a un qui est blessé.
Ouais. Mm-hmm. Ben, oui, c'est ça.
Parce que souvent, là, celui qui va initier la rupture, il y a un processus du deuil, de son deuil.
Déjà fait.
Oui, exactement. Parce que la journée qu'il l'annonce à l'autre, il a cheminé dans sa tête. Il a fait des vérifications. Puis tantôt, je me souviens, en début là, de l'entrevue, là, vous disiez, on le planifie pas. Mais je vous jure, moi, j'en ai rencontré des gens qui sont venus me voir avant de se séparer pour savoir dans quoi ils s'embarquaient. Je trouve ça. Puis, tu sais, d'un côté légal, d'un côté business, c'est correct, mais moi, je me disais, mais pauvre madame, son chum est venu me voir, son chum m'a payé pour venir me voir pour dire qu'est-ce qui va m'arriver avec les enfants si je sépare, qu'est-ce qui va arriver avec la maison, combien il va falloir que je paye de pension alimentaire, puis est-ce qu'il s'est séparé par la suite ou non, je le sais pas, mais tout ça pour dire que la personne qui va annoncer à l'autre la rupture, il y a un processus qui est fait. Alors, celui qui reçoit la nouvelle, c'est un choc, souvent. Des fois, on l'a vu venir d'avance, mais des fois, non. Et là, c'est terrible. Donc, cette personne-là qui est blessée profondément, qui se sent trahie, demandez-lui pas là, de s'asseoir avec son ex, avec un médiateur, puis de parler d'argent. Puis c'est là, souvent, bien, ces gens-là vont... Souvent, la dépression arrive aussi. Mm-hmm. Quand c'est c'est gros, là. On dit qu'une rupture de longue date, là, c'est entre 18 et 24 mois avant de revenir dans l'état où on était, de se retrouver en tant que personne, en tant qu'individu. Puis là, ben nécessairement, du point de vue financier, ça change tout, là.
C'est deux ans d'administration. Quand le monde se sépare, je leur dis, vous avez deux ans de conséquences. Mais voyons donc, deux ans, je dis, première déclaration, puis chaque anniversaire arrive, premier anniversaire des enfants qui ne sont pas là ensemble, première déclaration de revenus à faire, puis là, faire les ajustements. Puis là, c'est d'autres chicanes qui arrivent, parce que là, qui prend le crédit d'impôt? Qui prend les dépenses? Ah là, il faut que tu couvres les enfants parce que toi, tu as un régime d'assurance. Moi, j'en ai pas. Ben, ouais, mais là, tu vas me payer. Non, toi, tu es obligé selon la loi. Moi, je fais. Hey, là, c'est. Ça va. Si tu n'es pas de bonne foi, tu t'en sors pas. C'est très en main.
Ça peut vraiment aller loin. Ça peut vraiment, vraiment aller loin, effectivement.
Disons qu'on pense à nos auditeurs, là, aux gens qui nous écoutent, là, qui sont. Eux autres, ils sont ensemble, ça va bien. Ouais. peut-être qu'ils ne veulent pas se marier, peut-être qu'ils veulent se marier, mais qu'est-ce qu'on leur conseille? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on crée un contrat? À quoi il faut penser? De quoi il faut discuter ensemble pour dire, OK, on va avoir quelque chose de solide, puis on peut avoir la tête tranquille. En tout cas, on s'entend qu'on n'aura jamais la tête tranquille, là, ça je le comprends, mais... Le plus possible.
Il y a une façon bien, bien, bien facile, c'est de dire, quand on prend une décision financière importante, pas acheter un stylo, le bic, la 20 cents, c'est de dire, comment on se sépare ça? C'est à qui? OK, on achète un chalet ensemble. Ah, on verra ça. Non, OK. C'est quoi ton pourcentage à toi et à moi? Si tu décides de payer plus pendant la relation, tu dis, regarde, moi, je gagne plus, je t'invite au restaurant, puis c'est moi qui paye quand on est des restaurants parce que je gagne plus. Parfait. Ben, il ne faut pas que tu leur mettes une à la personne une fois que tu te parles. C'est que les décisions qui sont prises au fur et à mesure sont complètement assumées et sans aucune compensation financière attendue non décidée. Si vous dites, pendant un an, tu prends un congé pour retourner aux études, je vais te financer, super. Mais ça, là, faut que tu le fasses. C'est que si ta blonde te sacrait au bout de son année d'études,
faut que tu dises « OK, c'est beau, j'assume ». Sinon, si tu veux une compensation, c'est plate à dire, mais il faut que tu l'écrives quelque part. En cas de rupture, tu me dois 15 000. Parce que, c'est fait que moi, je dis, pensez vos décisions en fonction de la fin de la relation. Êtes-vous encore à l'aise avec? C'est très rough, là. T'sais, j'avoue que c'est très, ça manque un peu de romantisme.
Ça manque de romantisme.
Mais en même temps, tu sais, quand tu as une répartition juste des actifs, puis que tu arrives en médiation après ça pour te séparer, il n'y en aura pas d'enjeu. Il va y avoir des enjeux émotifs. Il m'a trompé, il m'a laissé, il m'a... Tu sais, ou à moi, ou moi, peu importe. Mais au bout du compte, l'avocate va arriver puis va te dire, ou l'avocat va te dire, bien là, c'est simple votre dossier, là. Vous êtes conjoint de fait. Toi, t'as ça, le contrat dit ça, c'est fini. Et donc, vous allez amortir le choc de la rupture s'il y en a une. Puis s'il n'y en a pas, vous allez faciliter votre testament. Tout va être facilité, mais il y a des gens qui ne veulent pas en parler. Puis ça, c'est le premier enjeu, c'est de dire... Il faut que ça rentre dans la discussion comme un régime de nutritionniste. Là. Ça fait partie de la vie.
Ben, comme on parle de l'éducation des enfants, comme on parle de la répartition des tâches, Maître Drapeau, c'est quoi un dossier simple à régler?
C'est vraiment...
Arrives-tu?
Deux salariés égaux avec les mêmes revenus. Les mêmes
on entend des fois des histoires là, de couples qui se sont séparés. Écoute, ça a été... Ils sont encore en bon terme.
Oui. Bien, évidemment, que moi, c'est sûr que moi, je vois les pires. Là. Quand ils viennent dans mon bureau, parce que souvent, ils sont allés en médiation avant, ça ne fonctionnait pas. Puis, ben, c'est sûr que moi, j'ai juste ce portrait-là là, de la société que ça ne va pas. Je voudrais... Ce qui fait la différence, c'est vraiment la réaction des gens. C'est l'attitude des gens. Puis, c'est d'être capable de dire, bon, regarde, tu m'as trompé, ou je me suis fait avoir, j'ai payé le trois quarts de l'hypothèque toute ma vie, mais regarde, écoute, quand je l'ai fait, je gagne un peu plus que toi. Tu sais, on parlait de décision assumée, mais c'est ça. C'est de dire, bon, regarde, c'est correct, j'assume que j'ai payé le trois quarts, je t'aimais, j'étais d'accord avec ça, je ne vais pas récupérer cet argent-là. C'est, en fait, là, les dossiers qui se traitent bien, c'est quand les gens sont capables d'avoir une certaine maturité, de pas se laisser emporter par la guerre là, t'sais, peu importe ce qui s'est passé.
On pense tout le temps qu'on va être bien mature jusqu'à temps que ça nous arrive.
Jusqu'à temps que ça arrive.
Mais même les avocats qui se séparent vivent une frustration.
Non, c'est pire. Je pense que c'est les pires. Parce qu'ils veulent se battre. Mais j'en ai vu moi des gens qui sont venus me voir puis qui arrivaient avec des listes de biens. Carrément, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire là? On parlait de ça tantôt. C'est plate, mais de dire, bon, ben, regarde, on déménage ensemble, ben, la télé est à toi. On la met dans une colonne de bleu. C'est bleu, c'est la télévision est à toi. Le set de chambre que ta mère t'a donné, c'est à toi. C'est de se faire vraiment une liste de biens, fait qu'on peut réévaluer ça. Puis je dis ça, puis je trouve ça complètement absurde. Mais ouais. Ça serait une chose à faire pour éviter la catastrophe au moment de la séparation. Puis c'est ça. Les séparations qui se passent bien, c'est parce que les gens mettent leur sentiment, en quelque part, de côté. Et c'est de dire, je vais pas nourrir une guerre, je vais pas nourrir un conflit, je vais mettre mes émotions, puis j'ai de la peine, il m'a trompé, c'est le pire des derniers. Bon, mais indépendamment de ça, on va faire ça intelligemment, puis on va se parler. C'est très dur, là, c'est très dur.
Il y a aussi la relation émotive avec des actifs. Je te donne un exemple. Tu as une maison que tu as gossé avec tes mains, puis l'autre est arrivé dans ta vie, tu y as vendu à moitié, ben si, dans une relation de même, tu peux aussi dire dans l'acte notarial, en cas de séparation, le droit de premier refus, tu sais, si la personne t'offre la juste valeur marchande que vous êtes entendu, elle a le droit en premier de faire une offre parce que c'était à elle la maison avant, elle t'a permis, c'était la maison de sa mère, tu vas quand même pas aller prendre la maison de la mère de l'autre. Ah, tu peux, mais si la personne veut, tu sais. Donc, cette espèce de tenir compte du côté sentimental des choses, c'est juste des choses, mais ça demeure. Une maison, ça peut être beaucoup de valeur pour une personne. Si la personne est élevée là, puis là, elle a acheté la maison de sa mère puis, ou de son père, puis que là, l'autre arrive dans la vie, puis « Ah, c'est moi qui te rachète la maison de tes parents », bien, ça n'a pas la même valeur pour les deux, la maison. Et ça aussi, il y a... Puis Maître Drapeau, je ne sais pas si vous savez, si vous pouvez affirmer là-dessus, mais quand tu t'entends bien, c'est parce que tu ne comprends pas tous les enjeux. Quand tu arrives devant le médiateur, puis là, tu apprends que « Ah ouais, mon ex gagne bien sa vie, mais... je gagne plus qu'elle, fait que va falloir que je la paye pour les enfants. Fait que là, tu dis, OK, je paye la pension alimentaire, tu es réglé. Non, non. En plus, il y a une séparation des affaires de base qui sont 50-50, mais tout ce qui est jugé extra, c'est au prorata des revenus bruts. Mais ce qui est extra, là, c'est de dire l'école privée, les activités au bout d'un certain montant. Donc,
il y a plein d'enjeux que la personne apprend chez le médiateur. Puis là, elle était bien chill à l'arrivée. Oui, je vais te payer une pension alimentaire, tout est beau. Ah oui, mais en plus, il faut que je paye 75 % des broches de l'école privée. Toi, tu reçois des allocations, moi, je n'en reçois pas. Et là, ça crée un schisme incroyable. Tu sais.
C'est tellement vrai, là, c'est exactement ça. Les gens, souvent, c'est plate à dire, mais c'est quand ils n'ont pas d'informations, ils ne savent pas trop, ils s'entendent, ils s'organisent entre eux. Là, quand les gens vont en médiation, justement, ils apprennent ces informations-là. Puis des fois, il y a des gens qui sont en médiation et ils veulent avoir un avis légal. Parce que le médiateur n'a pas le droit, on donne... Quand je suis en médiation, je donne de l'information légale, mais je ne peux pas orienter les
on
gens.
On n'est pas parti.
Non, exactement. Mais avec le chapeau d'avocat, ça, je le vois souvent, des gens qui sont dans un processus de médiation puis qui viennent me voir pour avoir un avis. Puis là, ben moi, j'ai pas le choix. Je leur dis, écoute, tu n'as pas travaillé pendant... Tu t'es occupé de la maison, tu ne travaillais pas pendant des années, tu es marié, tu as le droit à une pension alimentaire pour ex-épouse, en plus de la pension alimentaire pour les enfants. C'est sûr que la madame, quand elle retourne à sa réunion de médiation la fois d'après, puis qu'elle dit, ben, je veux une pension alimentaire pour moi, j'ai
vraiment. Elle a le droit.
Mais elle dit que, là, ça marche plus, là. C'est pour non. ça, c'est souvent que les avocats, on va créer le problème. C'est pas tant qu'on, on veut pas de chicane, c'est qu'on informe les gens de leurs droits, puis effectivement, une fois que les gens détiennent cette information-là, ça crée des conflits. Ou quelqu'un dit, oh, c'est entendu, il me donne 200$ par mois pour la pension alimentaire. Puis là, ben justement, il y a toute la question des frais particuliers, les broches, le psychologue.
Parce que tu peux refuser après ça. Fait que c'est au détriment de l'enfant. Exemple, les frais particuliers, tu n'es pas obligé de dire oui. Là, le bien de l'enfant, c'est large. Les broches, c'est esthétique ou c'est pour la santé mentale de l'enfant? Est-ce que l'école privée, dans son cas, c'est nécessaire ou tu peux dire hey, à l'école publique, ça aurait fait l'affaire?
Bien, on revient au fameux projet de vie commun qu'on a pu. Fait que là, c'est sûr qu'on continue de se déchirer.
Des fois, tu as un enfant qui a des problèmes et tu serais prêt à payer l'école pour lui, mais pas pour l'autre. Parce que bon, et le point, quand tu me parles de planification, parce que là, on est quand même dans les couples où ça va bien, là, qui t'écoutent. Non, mais pour se protéger, moi, je dirais de payer des avocats en amont au lieu d'en aval, c'est beaucoup moins cher.
Ouais.
Et le problème.
Ouais, ben, c'est ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on peut faire ça?
Ben oui, tu viens pour te marier. Moi, je n'en reviens pas le fondamentalement d'Instagram. Tu dis. T'es prête à faire une déclaration d'amour à ta blonde, dire veux-tu m'épouser, t'es sur une plage, tu prends une photo, t'as une bague, tout ça, on se marie. Moi, ma première question, c'est tout le temps, en société d'accueil ou en séparation de biens? Là, il me regarde et il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai même des gens qui se demandent en mariage, c'est accepté. Quelques semaines avant le mariage, là, ils sont allés consulter. Puis là, ils ont dit, hey, sais-tu quoi? Je veux me marier en séparation de biens. Là, la madame, elle veut pas. Elle dit, comment ça, tu veux te marier en séparation de biens? Tu veux planifier ta sortie? Non, non, moi, c'est société d'accueil ou rien. Et là, la chicane pogne. Alors, je pense que le mariage, c'est plate à dire, hein, mais ça devrait pas être un geste impulsif, ça devrait être discuté. Oui, ta demande, elle peut être surprise. Tu t'es entendu, mais il faut que tu dises à la personne, hey, si on se marie, moi, j'ai ma compagnie. Je veux que tu sois en séparation de biens. T'es-tu d'accord avec ça? Parce que j'ai vu ma famille, puis tout ça, j'ai vu, tu sais. Mais c'est turn off de dire, chérie, veux-tu m'épouser en séparation de biens? Tu sais, veux-tu faire ta vie avec moi en me laissant tels actifs?
Mais je suis entièrement d'accord. Moi, c'est toujours parce que les gens se marient sans savoir ce que ça implique. Fait que moi, n'importe qui, là, tout le monde qui se marie devrait au minimum aller consulter pour avoir l'information. Puis on parle de séparation, mais c'est pas juste de séparation, c'est le décès aussi.
Exactement aussi.
Qu'est-ce qui va arriver? Je me marie avec, là. Tu sais, ou je suis pas mariée, ils décèdent demain matin, on a des enfants. Qu'est-ce qui arrive? Qui va prendre les décisions pour les soins, pour mes enfants? De quelle façon l'héritage va être réparti? Les gens décident de signer un contrat qui a tellement d'impact, là. C'est un contrat à vie, puis ils ne savent pas c'est quoi ce contrat-là. Fait que, oui, ça se fait d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un notaire, un avocat pour dire, bon, ben, regarde, nous, on veut se marier. Explique-nous comment ça marche, ce que ça implique. Puis ceux qui veulent pas se marier, qui sont conjoints de fait, faites-vous-en un, le contrat. On le voit de plus en plus. C'est peu connu. Il y a le contrat d'union civile. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes impacts que le mariage, mais on est capable de prévoir d'avance, advenant la séparation, qu'est-ce qui va arriver.
Ou décès, tu sais.
Si vous en faites pas de contrat, allez chercher l'information avant. C'est
une
mieux.
Autre affaire.
Avant, c'est payé après.
Moi, je dis aux conjoints qui font des enfants, comme mettons, Dominique, mettons que tu avais fait des enfants à perpétuité, mais que tu n'étais pas marié. Puis tu n'avais pas de testament, puis pas de contrat de vie commune. Mais là, je te dirais, hé hey, là là, tu sais, le non-testament, moi, les gens qui ne veulent pas prévoir leur mort, ça me fascine. Moi, c'est le premier contrat légal sur lequel j'ai insisté. J'ai mis des enfants au monde. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais me faire frapper en vélo sur le bord de la rue, que je vais mourir au fin des légumes.
puis qu'il n'y aura personne qui ne va pas vivre les conséquences. Je donne un exemple que j'ai déjà vu. Le père meurt dans un accident. Deux enfants, pas de testament, pas marié. Alors, voici ce qui s'est passé. Le père, avec son salaire, qu'est-ce qu'il faisait? Il payait à la maison. Là, il décède. Bon, légalement, l'argent allait aux enfants. L'assurance-vie, tout ça, les enfants ont reçu l'argent. Mais les enfants aussi, ça part de la maison. Puis, ça part de la maison, cette valeur. Un enfant, c'est pas pour son bien-être financier qu'on paye une maison. Alors, la mère qui avant partageait une maison avec son ex se retrouve monoparentale veuve et avec l'obligation de racheter la maison aux enfants pour leur part. Sinon, elle est obligée de vendre puis donner le cash aux enfants.
C'est
et donc,
pas.
La mère s'appauvrit. Alors, voilà moi que légalement, j'aurais voulu que la mère de mes enfants finisse à moitié dans la rue, à payer une maison deux fois trop chère pour elle, puis que mes enfants la mettent dans la rue parce que l'exécuteur testamentaire dit, ben là, moi, je dois gérer pour les enfants, puis le bien-être des enfants, c'est pas de payer une maison pour des taxes foncières. Et c'est fou de même.
Ben, c'est tellement, tu sais, on a besoin d'entendre ça parce qu'on l'entend pas suffisamment, moi, je trouve, là. Puis souvent, on n'a pas conscience de l'impact de ce qu'on fait pas, en fait, d'avoir de contrat d'union ou de pas avoir de testament. Fait que ma dernière question, c'était la suivante, justement. Qu'est-ce qu'on dit, aux gens qui, justement, ont pas engagé cette conversation-là, comment on les convainc là, de faire le premier pas? Je pense qu'on a dit quand même pas mal là, pendant le podcast, mais je sais pas si vous aviez une dernière petite...
Mais drapeau, comment vous faites ça, vous, de dire... Tu sais, une personne qui est boquée, qui veut pas en parler.
Oui, qui aime pas ça, ces affaires-là. Là. Tu sais, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup plus qu'on pense.
Avec l'argent, c'est pas compliqué. En fait, c'est comme n'importe quoi. Si j'entretiens pas mon véhicule... À un moment donné, ça va me coûter une fortune pour faire les réparations dessus. Si je vais pas chez le dentiste, je veux pas aller chez le dentiste parce que je veux pas payer pour un nettoyage, oui, mais ça va me coûter combien après en réparation? C'est la même chose. On parle de testament. Les gens, ça coûte cher un testament. Oui, mais combien va te coûter un procès après ça? S'il y a pas de testament parce qu'on va se chicaner. C'est vraiment là, surtout avec des enfants, il faut penser à eux autres. Aller voir un avocat, un notaire, aller chercher de l'information, lisez un peu sur Internet, on est capable d'en avoir quand même beaucoup. C'est terrible d'être obligé d'engager des milliers de dollars. Et là, un procès, là, ça se fait pas en dedans de 6 mois. Là. À partir du moment où on rédige la demande et qu'on passe devant la cour, il y a un an et demi, là, tout dépend. Là, moi, je suis à Québec. Là. T'sais, on est capable d'avoir des en dedans de 2 ans, mais il y a des... À Montréal, Longueuil, c'est épouvantable les délais. Fait que, est-ce que vraiment, là, les gens, vous avez envie de risquer de passer 2 ans de votre vie à être dépressif, à faire de l'angoisse, à avoir des difficultés au travail? C'est tous les aspects de la vie des gens qui est affecté quand on est dans une situation comme ça. C'est quoi de prendre 500 $ là, je dis ça, c'est toute réserve, là. Vous prenez 500 $ vous allez voir un avocat, vous passez quelques heures avec, 2 heures peut-être, pour avoir de l'information. Versus 10 000, 20, 25, 30, puis 2 ans de votre vie qui est complètement gâchée juste parce que vous n'avez pas bénéficié de l'information avant.
Ça fait destruction de patrimoine de tes enfants dans ce temps-là, parce que dans le fond, si tu donnes 30 000 à un avocat, puis l'autre affaire que je trouve aussi, puis c'est peut-être aussi pour d'autres personnes qui t'écoutent, qui laissent traîner une séparation. Ça, c'est... Pour en parler, il faut que tu en parles. Oui, moi, c'est tout le temps l'aspect financier. Parle des scénarios catastrophes. Veux-tu que ça arrive à tes enfants? Donc, moi, c'est la façon d'introduire. Mais une autre affaire, c'est une fois que vous avez pris des décisions de séparation, tout ce que tu payes à ton ex, par exemple, tu dis, je vais donner 1 000 $ par mois, mais que c'est la séparation n'est pas officielle, le divorce n'est pas fait, bien, toi, ton patrimoine familial, il continue à s'accumuler. Mais Drabeau, contredisez-moi si je me trompe, mais si tu passes 5 ans en divorce non divorcé, puis tu gagnes la valeur, pour acheter la paix, tu t'envoies un chèque à l'autre. Un, tu peux pas le déduire parce que c'est pas une pension pour ex, c'est de l'argent net que tu lui donnes, t'es encore marié.
Oui,
et deux, ton patrimoine familial monte. Il y a des personnes qui disent « Ah, oh, moi, mon ex, ça va super bien, on va se divorcer le lendemain, mais il n'y en a pas de problème. » Et qu'est-ce qui arrive 5 ans plus tard? Là, le gars ou la fille rencontre un chum, puis là, la chicane pogne parce que là, le ressentiment ressort. Puis là, la personne va voir un avocat et dit « Ben là, t'as droit à moitié du patrimoine familial. » Jusqu'à maintenant, même si tu étais séparé de corps, tu es encore marié. Et donc, c'est vrai que le patrimoine continue de s'accumuler.
La règle de base, c'est que quand on introduit une demande de divorce, c'est que parce qu'il faut déterminer c'est quand la La date à laquelle on va calculer la valeur partageable du patrimoine, cette date-là, il faut l'arrêter. La loi prévoit que, bon, a priori, ça va être la date de la demande. Donc, oui, tu sais, ça fait 5 ans qu'ils sont séparés, on prend la procédure aujourd'hui, bien, on demande à ce que le patrimoine familial soit partagé en date d'aujourd'hui. Mais là, la loi nous permet aussi de dire, bien, écoutez, on peut demander à la Cour, si les parties sont d'accord, à ce que cette date-là, à laquelle on divise tout en deux, que ce soit à la date de fin de vie commune.
Si les parties sont d'accord.
Mais là, on chicane.
Oui, bien, c'est ça.
La date des procédures ou la date de fin de vie commune, si j'ai un client qui bénéficie du fonds de retraite beaucoup plus élevé de l'autre, bien, lui, il va vouloir la date la plus récente. L'autre, il veut partager le moins possible de son fonds de pension. Fait que c'est sûr qu'il va vouloir, mais c'est des chicanes qui finissent plus. Puis là, on parle de patrimoine familial, mais ce que je vois trop souvent, c'est au niveau de la pension alimentaire pour enfants. Parce que...
Rétroactif, ça, là, non?
Rétroactif, 3 ans.
C'est un droit de l'enfant. Tu ne peux pas renoncer au nom de l'enfant. Parce qu'il y a plein de monde qui dit « Ah, oh, je te demande pas de pension. Ouais, » mais 3 ans plus tard, tu peux revenir légalement pareil. Mais pour être positif, là, parce qu'on a de l'air très, très... mais moi, je te dirais que pour parler d'argent, pour régler le problème, c'est les jeunes coûtes qui t'écoutent et qui sont encore là, dans l'amour et l'eau fraîche. Ils n'ont pas encore mangé leur premier sandwich. Ils sont encore de se nourrir de l'eau. Là. Peut-être parler d'argent dès le début, dans le sens que pas attendre dans 10 ans que tu as des grandes décisions, mais de dire, hey, moi, la vie financière, ça fait partie de la vie d'un couple, donc moi, je veux qu'on en parle. Ça me fait toujours rire des couples qui arrivent à première déclaration de revenus commune, parce qu'ils vivent ensemble depuis un an, puis à un moment donné, ils se rendent bien compte qu'il faudrait qu'ils déclarent. Il y en a encore qui déclarent leur adresse chez leurs parents, tu sais, parce qu'ils commencent. Mm. Puis là, ils viennent d'apprendre combien leur chum et leur blonde gagnent. C'est fascinant, là. Ouais. Il y en a qui veulent même pas en parler de ça, tu sais.
En fait, dans un monde idéal, là, on brise le tabou en partant dans la relation. On en parle comme on parle...
après la première nuit.
Oui, on peut peut-être attendre jusqu'à là. Peut-être une semaine ou deux, là, mettons. C'est
ça. Tu peux vivre un peu d'amour d'eau fraîche, tu sais.
Ben, c'est parce que, tu sais, ce qui est délicat aussi, tu sais, je le vois aussi quand on parle de charge mentale, c'est que c'est souvent la personne qui est lésée qui a le plus de risques dans la relation qui va aborder le sujet. Donc là, on veut pas mettre la chicane nécessairement. On a peur un peu d'emmener ce sujet-là.
Mais deux bords. Tu sais, la personne qui a beaucoup plus de ressources, en cas de rupture, risque aussi. Et donc, quand on parle de charge mentale, on parle souvent de la charge mentale de la famille, puis les... Mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a aussi toute la charge mentale de... On parle jamais de la charge mentale de soutenir le rythme de la famille. La charge mentale de gérer une business. On dit à l'entrepreneur, oui, l'entrepreneur, là, il y a des déclarations de revenus, déclarations de TPS, des employés à payer. Il y a une charge mentale qui vient avec le travail.
C'est clair.
Fait que ça aussi, il faut arrêter de banaliser puis surpondérer le fait de vider la vaisselle aussi. Je veux pas sous-entendre, mais la charge mentale, et c'est pas juste la maison. La charge mentale, c'est la vie.
C'est la vie au complet, je suis d'accord. Puis quand on parle de travail non rémunéré, là, on peut parler de ce qui s'est fait dans la maison, mais il y a aussi les heures de rénovation. Il y a eu beaucoup de temps aussi. Ça aussi, ça en est. Là. C'est pas juste le travail non rémunéré de tâches domestiques et de soins des enfants. Là. Il y a d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça.
La renonciation de carrière, là, des fois, c'est pas juste genre « Hey, j'ai renoncé une carrière ». Non. Toi, tu as eu la carrière que tu voulais parce que moi, j'ai renoncé à la carrière que je voulais pour la sécurité de la famille. Exemple, moi, j'ai pris une job de salarié avec une bonne paye pendant que toi, tu es allé vivre de ta passion. Oui, ça a fonctionné, mais toi, là, il y a un prix. Moi, c'est mon coût de renonciation. Toi, tu as pu être heureuse ou heureux parce que moi, j'ai accepté d'être malheureux. Ça se quantifie comment, ça? Tu sais, d'avoir accepté une job qui ne te rend pas heureux pour que l'autre ait un job qui la rend heureux parce que toi, tu ne savais pas trop ce que tu voulais. Puis au bout de 10 ans, t'as un reality check que t'as jamais fait ce que tu voulais dans la vie, mais que l'autre a tout fait ce qu'elle voulait. C'est pas facile.
Non, c'est pas évident.
Je le vois souvent, ça.
Ouais.
Malheureusement, encore, là, oui. Puis ce qui arrive, c'est qu'au moment où la décision est prise, de dire, bon, ben, regarde, moi, je vais déménager, je vais tout le temps changer de travail pour déménager, pour te suivre dans ton travail. Puis là, ben, au moment du divorce, ben, j'ai pas le fonds de pension. J'ai pas accumulé là le mariage d'érable et le fonds de pension comme je voudrais. Je fais pas le travail que nécessairement que j'aime. Je gagne pas le salaire que j'aurais pu gagner. Puis oui, il y a des principes de droit qui existent, mais encore là, est-ce qu'on va investir combien de milliers de dollars pour faire un procès? Puis comment je vais être capable de faire la preuve de ça? Soyez-vous, puis entendez-vous là.
C'est une autre situation vraiment drôle. Vous avez 2 enfants, mettons. Pas une grosse famille, là, pas 6-7, mais 2 enfants. Puis,
il y en a un, il se sépare, puis il y a une, la personne des deux qui se sépare, elle avait un projet de retourner aux études, trois choses. Et donc, la pensée, tu dis, tu sépares les deux, on gagne 50 000, tout va bien. Non, 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 non. L'autre retourne aux études. Ben, même une fois séparé, son retour aux études était pour améliorer sa condition. Et donc, la personne va te demander de financer son choix post-séparation. Et ça,
ouais.
Légalement, tu n'as pas le choix parce que la pension alimentaire est basée sur la capacité de travailler puis les revenus. Mais là, tu es aux études. Tu as une capacité de travailler, mais dans 3 ans. C'est un sujet, on pourrait faire un podcast de 8 heures.
C'est clair, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que c'est à partir du moment où tu as des enfants que là, tout, tu sais, le mariage, c'est une chose, mais le jour où tu as des enfants en commun, c'est là que tout se joue pareil. Là.
Oui, mais en même temps, tu peux être 10 ans marié avec quelqu'un, pas d'enfant, mais ma maître Drapeau, vous allez me contredire, là, c'est à partir de 10 ans que la pension alimentaire pour ex-époux embarque ou c'est plus ou moins une règle du pouce?
C'est pas une échelle. Là. Il n'y a pas un barème fixe. Mais oui, on doit déterminer, est-ce qu'on parle d'un mariage de longue durée ou un mariage de courte durée? T'sais, quelqu'un qui a été marié pendant 3 ans, moi, je vais dire non, là, on va pas, je ne vais pas aller faire le clown devant le juge et demander une pension alimentaire. Là. Il y a des limites, il y a des barèmes. Puis quand on parle de mariage de longue durée, on est dans le 20 ans, là, 15-20 ans facilement. À 10 ans, moi, j'irai. C'est tout dépendant parce qu'il y a d'autres critères. C'est pas ça. Assez complexe. Là. Évidemment qu'il y a une grosse différence de revenus entre les deux.
Un niveau de vie, une renonciation à une carrière volontaire. Quand quelqu'un te promet de prendre soin de toi, même s'il n'y a pas d'enfant dans le jeu, même s'il n'y a pas une compensation, il y a eu un engagement.
Oui, puis cet engagement-là doit être maintenu. Il y a la question aussi, c'est que si l'autre personne, ça dépend, si on a une madame de 60 ans qui a toujours été maman à la maison, ben, on ne lui demandera pas de développer une autonomie financière, de retourner travailler. Sauf que si on a quelqu'un qui a 30 ans, qui était allé à l'école, qui a tout arrêté pendant 10 ans, ben on va dire, regarde ma grande, tu vas faire un effort, là, va travailler à l'école. Tu vas avoir des droits pendant quelques années, mais c'est pas infini non plus. Là. Il y a beaucoup de critères à prendre en ligne de compte. Là.
Ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Pierre-Yves, avec Paul-Antoine, nous avez fait un super travail pour vrai là-dedans. Merci. Il y a des réponses à toutes nos questions. Je pense que tout couple qui s'assoit, qui se pose une question, peut ouvrir le livre et trouver possiblement une réponse.
Ou des nouvelles chicanes.
Mettons qu'on l'ouvre juste quand on se pose des questions. Tu sais, on va pas au-devant des coups. Non, il faut aller au-devant des coups un petit peu. Ouais. Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris quelques minutes pour discuter de ça avec nous. Je suis certaine que ça va avoir répondu à beaucoup de questions. Merci, Maître Drapeau. Merci, Pierre-Yves.
Merci, à la prochaine.
À la prochaine.
Merci.
Bye.
Au revoir.